Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom.
Moi c'est Sylvain.
Bonjour Sylvain. Donc
et vous c'est comment, pardon?
Yves, de RDIWA, Radio 2D.
D'accord, super.
Que vous pouvez écouter aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr et aussi sur les ondes FM en 107.5. Alors Sylvain, vous êtes ici pour du savon, je crois.
C'est ça, oui, nous on est en train de s'installer sur Orpierre là. Tout récemment.
Et ça, tout récemment, c'est-à-dire vous vous êtes lancé dans cette activité ou vous vous êtes installé ici avec votre activité?
Alors moi, je fais les savons depuis 2009. À l'époque, j'étais dans les Cévennes et bon, c'est tout un parcours de recherche de terres agricoles qui a fait qu'on a réussi à acheter des terres sur Orpierre l'année dernière. Et là, on a trouvé un logement sur le village et on s'installe donc pile cette semaine en fait.
Une nouvelle aventure.
Voilà, ça part là avec ma compagne, on a notre bébé et puis on...
Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce pays?
Alors bon, moi j'étais déjà passé pas mal de temps ici en fait. J'ai beaucoup vécu sur Talar, beaucoup pour le sport aérien. Et puis du coup j'ai appris à découvrir la région et à beaucoup aimer ce secteur là entre la Provence et la montagne. Et quand on a cherché les terres, il se trouve que ça s'est libéré sur Orpierre, que je connaissais un petit peu par la grimpe. Et le terrain qu'on a trouvé est vraiment magnifique, un peu sur les hauteurs, très très préservé, avec la possibilité de faire des plantes médicinales de bonne qualité, préserver des pollutions, vraiment un site naturel. Donc c'est ça qui a fait qu'on a mis le paquet pour pouvoir s'installer ici.
Donc vous cultivez des plantes également, c'est ça?
Alors en ce moment on ne cultive pas encore, pour l'instant c'est beaucoup de cueillettes sauvages. Et on va récolter des plantes sauvages sur notre terrain et également être en culture. Donc la mise en culture, ça va se faire d'ici un an et demi, parce que les terres sont pâturées encore jusqu'à fin 2016. Donc pendant un an et demi, on va préparer des plants qu'on va implanter, et entre temps, on va récolter déjà tout ce qui pousse en sauvage. Donc déjà du pin sylvestre, du genévrier, il y a du thym, de la lavande aussi en sauvage. Et avec ça, on va déjà pouvoir produire nos huiles essentielles et faire des savons avec. Et petit à petit, implanter de la lavande en plus grande quantité, du romarin, de la sauge officinale. On a des roses à parfum aussi qu'on va greffer sur des églantiers pour aussi avoir une gamme avec de la rose.
Et vous, vous connaissez un peu en plantes? Vous avez fait des études sur les plantes ou pas?
Oui. Donc j'ai déjà fait un BPREA. Bon, ça, c'est un peu le truc nécessaire pour s'installer en agriculture à Nyons, qui est spécialisé dans les pommes. Après, j'ai appris les plantes, moi, à partir de 2002. D'abord, j'étais parti en Équateur et j'ai rencontré un Français qui vivait là-bas et qui travaillait avec les plantes médicinales, qui cultivait des plantes, qui faisait des tisanes avec, des baumes à base d'huile, un petit peu toute la gamme de produits naturels à base de plantes. Donc c'est là que j'ai appris. Puis en rentrant en France, j'ai rencontré le syndicat simple, des gens du syndicat simple comme... Jean-François Rousseau à Rosan par exemple, qui distille des plantes, beaucoup des gens qui font beaucoup de cueillettes sauvages, donc et un petit peu de culture. Et bon, j'ai appris avec eux, après avec le BPREA, et puis chez d'autres producteurs en fait. J'ai passé 2 ans dans les Cévennes, dans un GIE avec des...
Un GIE, ça signifie, pardon?
C'est un groupement d'intérêt économique, ça, c'est comme une association professionnelle de producteurs. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup des productrices qui bossaient dans les Cévennes de Lozère et également sur les Causses, ramasser des plantes beaucoup et aussi des petits jardins. Et j'ai beaucoup appris avec elles sur la culture, la cueillette, la distillation et avec d'autres personnes aussi. Donc avec Jean-François aussi énormément.
Et il vous arrive de distiller vous-même alors?
Là,
pas encore.
Si, dans les Cévennes, j'ai distillé à partir de leur alambic. Et bon, pour l'instant, le projet avec la distillation, il est de distiller chez Jean-François Rousseau. Donc son alambic à lui, il en a en cuivre en inox.
À côté de Die, à Sainte-Croix, le village de Sainte-Croix, il existe l'ancien monastère de Sainte-Croix. Et à côté, il y a un jardin botanique qui s'est spécialisé dans les vieilles, dans les plantes ancestrales. Mmh. Donc, et qui sont médicinales, alimentaires aussi. Donc, c'est intéressant à voir.
Ah ouais, je ne le connais pas celui-là.
Voilà, ben c'est assez facile à trouver à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Cette cueillette sauvage, il y a une réglementation actuellement pour s'en approvisionner de la nature ?
Ah oui, il y a un gros débat là-dessus. Il y a des plantes protégées, bien sûr. Et ce qui est important en récoltant les plantes sauvages, c'est de toujours avoir l'autorisation du propriétaire. Donc de bien vérifier à chaque fois là où on veut aller cueillir, qui est le propriétaire, de faire une demande et de s'assurer que bah, il n'y a personne d'autre qui cueille à cet endroit-là. Et de voir un petit peu, en fonction du site, qu'est-ce qui est possible de récolter ou pas. Ça dépend des plantes, ça.
Alors donc, de ces plantes, vous les introduisez dans votre savon ?
Oui.
Alors, il y a une chose que je voudrais savoir, c'est comment vous fabriquez le savon ?
Alors, le savon, nous, on le fait avec de la soude à partir d'huile végétale, qui est saponifiée par la soude. Donc, la soude, c'est un produit qui est extrait de l'industrie chimique, mais pas plus que le sucre en poudre raffiné, par exemple. La soude, en fait, ça s'obtient par électrolyse du sel, en fait. Donc, quand on a du sel dilué dans de l'eau, en faisant passer un courant électrique, on fait cristalliser la soude, et puis il y a du chlore qui se dégage et de l'hydrogène qui se dégage, et puis il y a l'hydroxyde de sodium qui reste solide dans l'eau. Et il y a des qualités de soude alimentaire. Donc c'est ça que nous on utilise, qui est très important, parce que justement elle contient pas de métaux lourds et de mercure, contrairement à la soude industrielle qui sert plus à faire du nettoyage. Et donc nous on utilise vraiment cette soude alimentaire, ça c'est vraiment important et c'est pas évident de s'en procurer. Et cette soude est diluée dans de l'hydrolat, donc une phase d'eau. Ensuite on la mélange avec de l'huile végétale. Et c'est ça la réaction entre la soude et l'huile végétale, qui s'appelle la saponification, qui transforme l'huile en savon.
D'accord, donc, une espèce de, comment dire, d'émulsion qui se solidifie quelque
oui,
part.
Oui, ça tourne un peu comme une mayonnaise, on peut dire, grossièrement. Quoi. La réaction se démarre et ça se transforme progressivement, ça durcit au fur et à mesure et ça devient solide du savon solide. Donc tout est une question de dosage, de température aussi. Là, je perds le fil.
Là, on parlait du savon, ouais. Et de la soude, et puis du processus d'hydro, je ne sais plus comment, parce que c'est des termes que je
l'hydrolat, très peu. L'hydrolat, ouais. Voilà. Ouais.
Donc, oui, à partir de cette préparation, là, vous allez induire des huiles essentielles ou même des morceaux de plantes directement.
Voilà, une fois qu'on atteint cette sorte de mayonnaise, en fait, qui est la molécule du savon, on introduit ensuite différents ingrédients. Donc nous, c'est de l'huile essentielle et des petits brins de lavande ou pas. Des fois aussi, juste de l'huile essentielle pour garder un savon sans partie solide. Ou alors aussi des brins de plantes pilées qui ont un petit côté exfoliant, qui donnent aussi de la teinte et de la texture au savon. Voilà, qui a des propriétés. Les possibilités sont vraiment infinies. Hein. Nous, on fait des savons très très simples à partir des produits qu'on trouve sur notre terrain et autour. Quoi. C'est ça notre idée. Donc, des brins de lavande, des feuilles éventuellement passées à la moulinette et des huiles essentielles.
Comment fait-on pour conserver parfaitement le savon avant qu'il ne se fende ou qu'il soit trop sec ?
Alors nous, on a plutôt une difficulté à avoir du savon qui reste bien sec. Enfin, une difficulté, c'est pas une difficulté, mais on a plutôt notre travail, c'est surtout d'arriver à faire que le savon il sèche bien. En fait, nos savons ils sont uniquement avec de l'huile d'olive, donc c'est une huile qui est liquide. En fait, on fait des savons à base uniquement d'huile d'olive qui ont besoin de bien sécher pour avoir une bonne dureté. Contrairement aux savons qu'on trouve beaucoup industriels avec de l'huile de palme ou des corps gras qui sont solides et qui, eux, peut-être, effectivement, en séchant trop, vont pouvoir se fendiller. Nous, comme c'est de l'huile d'olive, on va plutôt avoir besoin de faire un bon travail de séchage. C'est ce qu'on fait, nous, qu'on a développé, en fait, pour qu'il reste bien dur, bien qu'il n'ait pas de corps exotique à l'intérieur.
Il conserve une élasticité.
Voilà, oui, en fait, j'avoue que j'avais pas réfléchi à le problème sous cet angle-là, en fait. Mais je pense qu'effectivement, c'est ça. Comme c'est un savon qui a plutôt une tendance à être mou, il garde son élasticité. Et en le faisant sécher, bah, il perd cette mollesse. Mais il a, jusqu'à présent, nos savons, ils n'ont pas encore séché au point de craquer. Quoi.
Et alors, cette passion pour le savon, ça vous est venu quand ?
Eh bien, j'ai découvert ça en Équateur, d'abord. Bon, j'ai mis, J'ai eu beaucoup de mal à réaliser les premiers, en fait. Tout seul, à partir de livres et tout ça, j'ai fait des essais, j'y arrivais pas. Quelqu'un m'a montré, et en fait, là, j'ai réussi à faire les premiers savons solides. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé cette matière. Ça fait un peu penser à de la poterie, en quelque sorte, où il y a une matière un peu malléable, qui durcit et qui m'a plu. Et après, il y a énormément d'avantages, je trouve, à saponifier les huiles et à mettre des plantes dedans par rapport à la conservation, par rapport au temps de garde, au transport, au stockage. Ça, j'ai découvert aussi après tous ces avantages-là. Ça permet vraiment d'emprisonner les parfums, qui fait que le savon, il garde vraiment son parfum très longtemps. J'ai retrouvé des savons qui dataient de 1960, qui étaient vendus sur un vide-grenier et qui avaient encore gardé du parfum, quoi. Donc voilà, je me suis mis petit à petit à trouver plein d'intérêt à ce produit.
Et vous continuez à chercher votre marque de fabrique quelque part, votre savoir-faire aussi,
complètement,
comme oui. Vous parlez de poterie, chaque potier a sa technique, ses couleurs et puis ses recherches propres pour arriver à ce qu'il fait. Est-ce que c'est un peu pareil pour les savons tels que vous pratiquez? Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui vendent des savons qui sont peut-être un peu plus industriels, qu'on voit sur les marchés souvent. Je ne sais pas si c'est des savons de très grande qualité.
Ben ça, je ne saurais pas à dire. C'est vrai que nous, on développe notre recette, on en affine à chaque fois. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est chaque moule de savon est un peu unique, en quelque sorte. C'est aussi, chaque fois, les ingrédients sont plus ou moins différents, les plantes sont un peu différentes. Et il y a toujours un émerveillement quand le savon durcit, savoir un peu quel aspect il va avoir, comment il va se découper. Et tout un travail voilà, sur la recette, le séchage, les outils les moules, les outils de découpe, tout ça, c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure, en fait.
Alors, les moules sont faits de quoi, par exemple?
Les moules, ils sont en bois.
Voilà, c'est du bois. Vous construisez vous-même?
Ça, c'est, on les construit nous-mêmes. Pareil, on est en train de les améliorer. Là, on a une série de moules qui va bien, mais qui a des petits défauts. C'est assez difficile à démouler. Donc, on essaie d'améliorer le système pour qu'il soit plus facile à démouler, que ça prenne moins de temps, en fait, qu'on soit plus efficace à ce niveau-là. Ouais. Et ben tout ce qu'on utilise, en fait, on le fait nous-mêmes, quoi.
Même le fil à couper.
Voilà, ça, voilà, on achète. Après, le système pour caler le fil à couper, comment le guider, tout ça. Ben, là, je suis en train de bosser sur un nouveau système qui permettra de découper plus facilement, d'être plus précis, en fait. Une des difficultés aussi, c'est de doser précisément, d'avoir des savons qui fassent le bon poids, quoi, qui soient plus ou moins tous du même poids, ou qui fassent au moins, en tout cas, plus de 100 grammes à chaque fois. Parce que comme on vend un savon de 100 grammes, on ne peut pas se permettre de...
Voilà, vous les faites uniquement à cette taille-là, pour l'instant?
Pour l'instant, c'est ça. Après, on va en faire aussi des plus gros, des carrés, quoi, des cubiques, quoi,
comme le
savon de Marseille, voilà, qu'on dit comme ça.
Il n'y a que celui-là que j'utilise. Mm-hmm. Voilà. Il tient bien dans la main. Très bien. Et donc, vous êtes arrivé ici, vous avez eu un soutien assez rapidement de votre entreprise installée ici.
Pour s'installer ici, on a eu énormément de soutien, sans quoi on n'aurait jamais pu acheter les terres. Bon, nous, on a été très soutenus par le syndicat Simple et par la Confédération Paysanne notamment, et puis quelques personnalités qui ont soutenu le projet, donc d'une agriculture paysanne, de l'installation d'une nouvelle famille dans une commune rurale. Et c'est vrai que ça a été une grosse bagarre pour pouvoir s'installer ici, en fait, pour trouver des terres. Parce qu'il y a toujours la difficulté des personnes qui sont déjà installées, qui ont déjà pas mal de terres, mais qui en ont toujours besoin de plus pour leur économie. Nous, on a un modèle économique différent. Et c'est pas évident de convaincre les décisionnaires, en fait. Et là, c'est passé vraiment grâce au soutien des personnes que j'ai citées, hein, beaucoup, Confédération Paysanne, et le syndicat Simple, la mairie aussi, qui a bien joué le jeu. Et, c'est un soutien qui a été hyper précieux pour nous. Hein. On est plein de gratitude pour pouvoir arriver enfin et se poser d'ailleurs avec un projet dans la durée. Quoi.
Et alors vos produits, on peut les trouver où?
Alors, on n'a pas encore de réseau en place là. Là, la marque qu'on est en train de créer, les paysans savonniers, c'est la première fois qu'elle est présentée au public, hein, sur ce marché. Et on va voir, là, on va avoir un dépôt au hangar à Serres. Et puis, on va voir aussi d'autres boutiques. J'avais eu des contacts à l'époque avec la Carline, Adi, J'avais pas encore le label Nature. Quand j'étais encore tout seul, ma compagne n'était pas encore dans le projet. Et voilà, on va relancer un peu tout ça. C'est vrai qu'on s'est beaucoup investi là. C'était surtout sur la recherche du terrain, le trouver le logement, etc. Et donc on va essayer de développer un petit réseau de boutiques. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait, c'est pas encore en place.
Et vous n'avez pas encore atteint cette vitesse de croisière qui vous rend un peu autonome économiquement, ou si ça va?
Ah non, pas du tout. Non, vraiment. En gros, moi depuis 2009 que je travaille là-dessus, en fait, moi j'ai mis en place, j'ai appris la technicité pour les plantes, pour faire les savons, toujours en améliorant, comme on parlait tout à l'heure, mais pas du tout, le réseau commercial, il n'est pas du tout en vente. Par contre, il y a un bon produit qui a été créé, et ce qui manquait jusqu'à présent, c'était de s'installer, de se poser dans la durée, de se projeter et d'avoir des terres. Donc c'était là-dessus qu'on s'est mobilisé jusqu'à présent. Donc non, économiquement, on n'a pas de sous, quoi. On est en train de mettre en place et on espère que ça va fonctionner. Et puis, on sait qu'on trouvera une solution. On sait qu'en ayant des terres, on arrivera à se débrouiller pour sortir quelque chose. Et on espère que ça marchera avec les savons.
Vous êtes ici, vous aviez dit, pour des raisons sportives, vous pratiquez des sports aériens. Lesquels, par exemple, par la varappe, c'est ça? Vous aviez pas
varappe, j'ai fait un tout petit peu de grimpe. Non, c'était beaucoup le parachutisme, en fait. Moi, c'était à l'époque, je sautais à Talar, mais ça s'est terminé. Ça, moi, j'ai arrêté de sauter en 2000 à peu près. Donc, j'ai fait beaucoup de sauts en parachute. Talar, il y a un gros pôle d'entraînement d'équipe de France de parachutisme. Donc, à l'époque, je faisais ce qui s'appelle du vol relatif à 8, c'est des figures à plat ventre en équipe. On avait fait des championnats du monde, etc. Et ouais, j'ai fait beaucoup de sauts en parachute. C'est ça qui m'a fait découvrir la région, en fait, les Hautes-Alpes. Et comme j'avais grandi en Provence aussi quand j'étais enfant, mon père était pilote et tout ça, donc ça m'a vraiment reconnecté à la Provence, mais à la fois avec la montagne. Et c'est ça qui a fait que je me suis senti bien dans ce coin.
Oui, il y a des belles pistes d'envol du côté du Diwa aussi.
Hein. Mmh. Voilà, bah, là
vers
aussi,
les Trois Becs, vers Luc.
Là, je connais pas bien. Là, c'est vrai que il y a la montagne de Chabre vers Orpierre, et là, j'ai bien envie là de passer au parapente. Bon, le saut en parachute, c'est un peu plus engagé. J'ai pas forcément envie de retourner vers cette pratique. Mais le parapente, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus aérien, là, ça me fait bien envie, quoi, de voler par là-bas.
Parapente, pareil. C'est pas ça vous attire moins.
Parapente et delta, quoi. Ouais. Par rapport au parachutisme, quoi. Plus tellement envie de sauter d'avion, quoi. Mais par contre, oui, voler avec une aile, en décollant des montagnes, ouais, ça me fait bien envie.
Et vous insérerez peut-être votre marque sur votre parapente pour vous montrer?
Alors ça, j'ai pas encore pensé à ça. Oui. C'est vrai que ça se voit pas très bien de tout en haut.
Ah ben, il faudra s'approcher peut-être. Ah oui, il y a une limite peut-être minimale à ne pas dépasser en vol de parapente, par exemple au-dessus d'une ville.
Ah, je pense que surtout si on passe assez bas au-dessus d'une ville, après on est obligé de se poser, quoi.
Oui, mais bon, il faut avoir le temps de se faire lire.
Mais je connais pas la loi là-dessus, ouais.
Très bien. Sylvain, comment?
Sylvain Turina.
Turina. Et donc, ce sont les paysans savonniers, l'entreprise.
Voilà.
Très bien.
Avec ma compagne, Alex Ayest, voilà.
Et alors, le modèle économique que vous parliez, c'est lequel tout à l'heure?
Alors, alors là, c'est vrai que pour définir tout ça, ben disons qu'en résumé, pour moi, c'est essayer d'avoir une vie assez simple pour pas avoir besoin de trop d'argent et pouvoir profiter de la vie au maximum, quoi, pouvoir se concentrer sur les relations humaines, la nature. Avoir du temps pour passer avec mon fils et nos autres enfants, si on peut. Après, c'est vrai que je suis pas très calé, là. Alors après, voilà, il y a tous les termes qu'on emploie, de circuit court, etc. Bon, je suis pas super bien placé pour en parler. C'est vrai que j'ai pas encore été vraiment très acteur dans tout ça. Mais moi, mon modèle de ce que je cherche à mettre en place dans ma vie, c'est vivre simplement... pas avoir besoin trop de ressources financières et donc avoir besoin de moins être esclave du travail et des entreprises et travailler sur le lien social, le lien humain.
C'est vrai qu'ici, je parle du Diwa, mais ici aussi, je pense, on est un peu oublié de ces structures médiatiques et publicitaires qui engorgent de partout ailleurs. Est-ce que ça y joue aussi pour amener, se retrouver à vouloir une vie simple?
Oui, c'est vrai que là, je suis pas encore, en fait. Quand j'ai quitté les Cévennes et que j'ai parti dans l'Aude et tout ça, revenu sur Gap, j'ai repris contact avec un peu tout ça, les supermarchés. Et c'est vrai que je l'ai pas encore retrouvé. Là, on est juste en train de retourner sur Orpierre et de reprendre contact avec un sorte de détachement, un ralentissement, un apaisement aussi. Et c'est ça que j'ai envie de cultiver et que je pense que ce genre d'endroit permet de cultiver, oui.
Et puis de mettre peut-être les enfants à l'abri aussi. Non ?
Si, si, c'est vrai que j'essaie de réfléchir, hein, la notion de mettre à l'abri et tout ça. Ouais, je sais pas exactement tout ça. C'est, pour moi, c'est confus, quoi. Effectivement, oui, en même temps, des fois, j'ai toujours des peurs qui peuvent venir, quoi. Si les enfants sont trop à l'abri, peut-être que quand ils sont en contact avec ça, ça peut aussi être trop brutal. Alors, je sais pas trop tout ça, c'est clair. Mais en tout cas, je vois, par exemple, quand on arrive à Orpierre, là, il y a plein d'enfants qui jouent juste devant chez nous et on dit que ça va être super pour notre fils, quoi, d'avoir des amis et tout ça. Et...
Parce que Ben, dans la vie simple, tout simplement aussi, le fait de vivre leur enfance dans un endroit où c'est la paix quelque part.
C'est ça qu'on espère. Ouais, c'est ça qu'on est en train de chercher. Voilà, on va voir comment ça se passe, quoi, au quotidien. Et
voilà, même si les temps s'endurent parfois, même encore plus l'hiver. Ça va?
Moi, l'hiver, j'aime bien l'hiver, en fait. Moi, j'aime bien quand il fait froid, j'aime bien quand c'est un peu sombre. Ça m'invite à me rentrer un peu à l'intérieur, en introversion, dans ma bulle. Et j'aime bien aussi, j'ai besoin de ça, de ces respirations. J'aime bien l'alternance entre l'isolement et le lien. Et ça, c'est pas quelque chose que je trouve spécialement dur, moi, l'hiver, les moments éventuellement de solitude où il n'y a pas beaucoup de monde et tout ça. Je sais pas si c'est à ça que vous faites allusion.
Ça peut être de beaucoup de points de vue différents.
Hein, ouais. C'est vrai que moi, plutôt, ce que j'aime dans l'hiver, une saison où je prends soin de ma bulle et où je me ressource pas mal, ce que j'ai eu du mal à faire justement ces dernières années, parce que dans le monde... actuel, souvent l'hiver ça continue à aller au même rythme que le reste de l'année et ça m'a manqué jusqu'à présent de pouvoir souffler l'hiver.
Oui, comme toute la nature se met au repos, hein, tout simplement. Eh bien, Sylvain, je ne sais pas si tu as certainement un site internet aussi.
En cours de création.
Voilà, d'accord. Ouais. Et sinon, là, actuellement, on peut trouver tes produits donc à la COP du Bouèche aussi.
Pas encore, là. C'est vraiment notre premier contact.
D'accord.
Par le biais de François, là, donc, qui fait la spiruline à Orpierre.
Oui.
Pourquoi pas, oui, avec plaisir, mais c'est pas du tout, c'est pas encore fait. C'est vrai qu'on est vraiment en train de démarrer notre nouvelle aventure, quoi.
Sur voilà, et donc vous avez les premières relations entre cette structure et vous, et comme d'autres, je pense, voilà. Très bien. Eh bien, Sylvain, je n'ai pas d'autres questions, vous avez peut-être d'autres choses à dire.
Merci à toutes ces rencontres là. On est vraiment content nous d'être venus sur cette fête. Rencontrer, ouais, c'est une belle énergie qui se dégage. On est content.
Et même pas une boîte mail ou un numéro de téléphone pour connaître vos coordonnées.
Alors un numéro, alors le 06 62 50 24 80, donc 06 62 50 24 80, et boîte mail, pour l'instant on peut mettre juste mon nom, hein, sylvainturina@yahoo.fr. Et très bientôt, là, on va mettre le site en place, au moins une première page, juste pour qu'on puisse cliquer dessus et trouver au moins nos coordonnées, quoi. Non, mais aussi bien, dès la semaine prochaine, il y aura lespaysansavonniers.com qui sera créé, donc on vous le dira à ce moment-là.
Bon, bah, très bien. Eh bien, merci Sylvain, et puis je vous souhaite une bonne aventure.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.